Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Nous revoici donc ensemble à nouveau dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Maune. Me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a 3 ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Galais, la femme d'Augustin Maune, est morte hier soir. Un étranger la prendrait pour une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier, dans ce lieu désolé. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Comment lutterai-je contre cette affreuse révolte, cette suffocante montée de larmes? Nous avions retrouvé la belle jeune fille. Nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon et moi je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. Je la regardais et j'étais content, comme un petit enfant. J'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille, et c'est à elle, la première, que j'aurais confié la grande nouvelle secrète. Près de la sonnette, au coin de la porte, on a laissé l'écriteau d'hier. On a déjà apporté le cercueil dans le vestibule, en bas. Dans la chambre du premier, c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille, qui me raconte la fin et qui entr'ouvre doucement la porte. La voici. Plus de fièvre, ni de combat. Plus de rougeur, ni d'attente, rien que le silence. Et entouré d'ouate, un dur visage insensible et blanc, un front mort, d'où sortent les cheveux drus et durs. Monsieur de Galais, accroupi dans un coin, nous tournant le dos, est en chaussettes, sans souliers. Et il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre, arrachés d'une armoire. Il en sort de temps à autre avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules comme une crise de rire, une photographie ancienne, déjà jaunie, de sa fille. L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'ouate imbibée de phénol. L'habillage est terminé. On lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d'argent. Mais il a fallu aplatir et friper les belles manches à gigot, maintenant démodées. Au moment de faire monter le cercueil, on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait, avec une corde, le hisser du dehors par la fenêtre et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais M. de Galais, toujours penché sur de vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible. « Plutôt, dit-il, d'une voix coupée par les larmes et la colère, plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse, c'est moi qui la prendrai et la descendrai dans mes bras. » Et il le ferait ainsi, au risque de tomber en faiblesse à mi-chemin et de s'écrouler avec elle. mais alors que je m'avance, je prends le seul parti possible. Avec l'aide du médecin et d'une femme, passant un bras sous le dos de la morte étendue, l'autre sous ses jambes, je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends lentement, marche par marche, le long escalier raide, tandis qu'en bas on apprête tout. J'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue. À chaque marche avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu plus essoufflé. Agrippé au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche. Des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure et de vous, Yvonne de Galet, jeune femme tant cherchée, tant aimée. Dans la maison pleine de tristesse et de souvenirs où des femmes, tout le jour, berçaient et consolaient un tout petit enfant malade, le vieux monsieur de Galet ne tarda pas à s'aliter. Au premier grand froid de l'hiver, il s'éteignit paisiblement et je ne pus me tenir de verser des larmes au chevet de ce vieil homme charmant, dont la pensée indulgente et la fantaisie alliée à celle de son fils avaient été la cause de toute notre aventure. Il mourut, fort heureusement, dans une incompréhension complète de tout ce qui s'était passé et d'ailleurs dans un silence presque absolu. Comme il n'avait plus depuis longtemps ni parents ni amis dans cette région de la France, il m'institua par testament son légataire universel jusqu'au retour de Maun, à qui je devais rendre compte de tout s'il revenait jamais. Et c'est aux Sablonnières désormais que j'habitais. Je n'allais plus à Saint-Benoît que pour y faire la classe, partant le matin de bonne heure, déjeunant à midi d'un repas préparé au domaine que je faisais chauffer sur le poêle et rentrant le soir aussitôt après l'étude. Ainsi, je pus garder près de moi l'enfant que les servantes de la ferme soignaient. Surtout, j'augmentais mes chances de rencontrer Augustin s'il rentrait un jour aux Sablonnières. Je ne désespérais pas d'ailleurs de découvrir à la longue dans les meubles, dans les tiroirs de la maison, quelques papiers, quelques indices qui me permit de connaître l'emploi de son temps durant le long silence des années précédentes. Et peut-être ainsi de saisir les raisons de sa fuite, ou tout au moins de retrouver sa trace. J'avais déjà inspecté je ne sais combien de placards et d'armoires ouverts dans les cabinets de débarras, une quantité d'anciens cartons de toutes formes qui se trouvaient tantôt remplis de liasses, de vieilles lettres ou des photographies jaunies de la famille de Galet, tantôt bondés de fleurs artificielles, de plumes, d'aigrettes et d'oiseaux démodés. Il s'échappait de ces boîtes je ne sais quelle odeur fanée, quel parfum éteint, qui soudain réveillait en moi, pour tout un jour, les souvenirs, les regrets, et arrêtait mes recherches. Un jour de congé, enfin, j'avisai au grenier une vieille petite malle longue et basse, couverte de poils de porc à demi rongés, et que je reconnus pour être la malle d'écolier d'Augustin. Je me reprochais de n'avoir point commencé par là mes recherches. J'en fis sauter facilement la serrure rouillée. La malle était pleine jusqu'au bord des cahiers et des livres de Sainte Agathe, arithmétique, littérature, cahiers de problèmes, que sais-je. Avec attendrissement plutôt que par curiosité, je me mis à fouiller dans tout cela, relisant les dictées que je savais encore par cœur, tant de fois nous les avions recopiées. L'aqueduc de Rousseau. Une aventure en Calabre, de Courrier, lettre de Georges Sand à son fils. Il y avait aussi un cahier de devoirs mensuels. J'en fus surpris. car ses cahiers restaient au cours et les élèves ne les emportaient jamais au dehors. C'était un cahier vert tout jauni sur les bords. Le nom de l'élève, Augustin Maune, était écrit sur la couverture en ronde magnifique. Je l'ouvris. À la date des devoirs d'avril 1890 et quelques, je reconnus que Maune l'avait commencé peu de jours avant de quitter Sainte-Agathe. Les premières pages étaient tenues avec le soin religieux qui était de règle lorsqu'on travaillait sur ce cahier de composition. Mais il n'y avait pas plus de 3 pages écrites. Le reste était blanc, et voilà pourquoi Maune l'avait emporté. Tout en réfléchissant, agenouillé par terre à ses coutumes, à ces règles puériles qui avaient tenu tant de place dans notre adolescence, je faisais tourner sous mon pouce le bord des pages du cahier inachevé. C'est ainsi que je découvris de l'écriture sur d'autres feuillets. Après 4 pages laissées en blanc, on avait recommencé à écrire. C'était encore l'écriture de Maune, mais rapide, mal formée, à peine lisible, de petits paragraphes de largeurs inégales, séparés par des lignes blanches. Parfois ce n'était qu'une phrase inachevée, quelquefois une date. Dès la première ligne, je jugeais qu'il pouvait y avoir là des renseignements sur la vie passée de Maune à Paris, des indices sur la piste que je cherchais, et je descendis dans la salle à manger pour parcourir à loisir, à la lumière du jour, l'étrange document. Il faisait un jour d'hiver, clair et agité. Tantôt le soleil vif dessinait les croix des carreaux sur les rideaux blancs de la fenêtre, tantôt un vent brusque jetait aux vitres une averse glacée. Et c'est devant cette fenêtre auprès du feu que je lus ces lignes qui m'expliquèrent tant de choses et dont voici la copie très exacte.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et donc, après cette nouvelle pause musicale, nous revenons à la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Maune. Je suis passé une fois encore sous la fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galet l'ouvrirait-elle que je ne saurais rien lui dire puisqu'elle est mariée. Que faire maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré sur le quai cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage, une petite ride au coin des lèvres, un peu d'affaissement aux joues et de la poudre accumulée aux ailes du nez. Elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face, peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil, elle m'a dit d'une voix brève « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, la nuit pleine, sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure, un haut parapluie fin pareil à une canne. Et comme je suis tout près d'elle, quand je fais un geste, mes ongles griffent le crêpe de son corsage. Je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande, fâchée. Elle veut partir tout de suite. Et c'est moi maintenant qui la retiens et la prie. Alors, un ouvrier qui passe dans l'obscurité plaisante à mi-voix. « N'y va pas, ma petite, il te ferait mal. » Et nous sommes restés, tous les deux, interdits, au théâtre. Les deux jeunes filles, mon amie, qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est placée devant moi. À chaque instant, elle se retourne inquiète, comme se demandant ce que je lui veux. Et moi, je me sens très près d'elle, presque heureux. Je lui réponds chaque fois par un sourire. Tout autour de nous, il y a des femmes trop décolletées, et nous plaisantons. Elle sourit d'abord, puis elle dit « Il ne faut pas que je rie, moi aussi je suis trop décolletée. » Et elle s'enveloppe dans son écharpe. En effet, sous le carré de dentelle noire, on voit que dans sa hâte à changer de toilette, elle a refoulé le haut de sa simple chemise montante. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril, il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. J'ai voulu l'interroger de nouveau sur le petit hôtel du boulevard, mais à son tour, elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai su rien répondre. Je sens que désormais nous serons tous les deux muets sur ce sujet. Et pourtant, je sais aussi que je la reverrai. À quoi bon? Et pourquoi? Suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? À minuit, seul dans la rue déserte, je me demande ce que veut cette nouvelle et bizarre histoire. Je marche le long des maisons, pareilles à des boîtes en carton alignées, dans lesquelles tout un peuple dort. Et je me souviens tout à coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois. J'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit, vers 1 h du matin, de contourner l'hôtel, d'ouvrir la porte du jardin, d'entrer comme un voleur et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu, pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatigué. J'ai faim. Moi aussi, je me suis hâté de changer de costume avant le théâtre et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet, pourtant, je reste longtemps assis sur le bord de mon lit avant de me coucher en proie à un vague remords. Pourquoi? Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu. Je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de Notre-Dame. Mais à quel numéro ? J'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes. En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à 4 heures devant le même théâtre où nous sommes allés. Si je n'étais pas là jeudi, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. Jeudi 18 février. Je suis parti pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie. On se disait à chaque instant, il va finir par pleuvoir. Je marche dans la demi-obscurité des rues, un poids sur le cœur. Il tombe une goutte d'eau. Je crains qu'il ne pleuve. Une averse peut l'empêcher de venir. Mais le vent se reprend à souffler et la pluie ne tombe pas cette fois encore. Là-haut, dans la grise après-midi du ciel, tantôt grise et tantôt éclatante, un grand nuage a dû céder au vent. Et je suis ici, terré, dans une attente misérable. Devant le théâtre. Au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin sur le pont par lequel elle aurait dû venir le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer. Une heure d'attente. Je suis là. À la tombée de la nuit, un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette d'une voix étouffée toutes les injures, toutes les ordures qu'il sait. L'agent est furieux, pâle, muet. Dès le couloir, il commence à cogner, puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise. Il me vient cette pensée affreuse que j'ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. De guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse entre la Seine et Notre-Dame où je connais à peu près la place de leur maison. Tout seul, je vais et viens. De temps à autre, une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire avant la nuit ses emplettes. Il n'y a rien ici pour moi et je m'en vais. Je repasse dans la nuit claire qui retarde la nuit sur la place où nous devions nous attendre. Il y a plus de monde que tout à l'heure, une foule noire. Supposition, désespoir, fatigue. Je me raccroche à cette pensée. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grand hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà, cette journée n'est-elle pas presque finie ? Rentrer chez moi, près du feu. J'entends crier les journaux du soir. Sans doute de sa maison perdue quelque part dans la ville, auprès de Notre-Dame, elle les entend aussi. Elle, je veux dire, Valentine. Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tous leurs espoirs, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords, d'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi ? Moi qui ai perdu ma journée. De quel droit est-ce que j'ose appeler demain ? Vendredi soir. J'avais pensé écrire à la suite, je ne l'ai pas revue, et tout aurait été fini. Mais en arrivant ce soir à 4 heures au coin du théâtre, la voici, fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable, un air à la fois douloureux et malicieux. C'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite, qu'elle ne viendra plus. Nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.